à voix nue. Toute cette semaine, nous réécoutons la rencontre en 2014 entre Virginie Bloch l'aîné et Paul Tchaïkovski-Laurence, fondateur des éditions POL qui vient de nous quitter. Ce soir, il y a des livres qui sont immédiatement exceptionnels.
Paul Tchaïkovski-Laurence, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes né en 1944. Vos initiales, POL, sont le nom de la maison d'édition que vous avez créée voici 30 ans, en 1983. Vos bureaux sont dans le 6e arrondissement de Paris. Les livres que vous éditez ont une couverture blanche, avec en bas 7 pastilles, figure du jeu de Go que l'on trouve dans La vie mode d'emploi de Georges Perec, dont vous avez été l'un des éditeurs. Vous êtes aujourd'hui l'éditeur de Marie Dariussec, Robert Bobert, Olivier Cadio, René Belletto, entre autres. Vous faites de la lecture votre métier. Vous êtes doué pour lire et pour recevoir une histoire. Ce soir, c'est sur vos talents de lecteur, sur ce qui vous touche, vous bouleverse en découvrant un manuscrit que j'aimerais vous poser des questions. Parce que nous lisons tous, nous sommes tous des lecteurs. Alors qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes plus doué que nous et que vous avez fait de la lecture votre métier ?
Oui, enfin, je ne sais pas si je suis plus doué que qui que ce soit, mais j'aime lire et j'ai au point d'avoir fait, en effet, mon métier de ce plaisir. Donc c'est un... Voilà, j'ai cette chance que n'a pas tout le monde de faire ce qui me plaît. Il y a un texte d'Antoine Vitesse qui dit, je cite de mémoire, donc c'est pas littéral, c'est pourquoi nous aimons la poésie, parce que la poésie dit la vérité. Et j'ai parlé de ça la dernière fois qu'on... Je suis très sensible à quelque chose qui est de l'ordre de la vérité dans les textes. Non pas parce que ce qui est dit a existé ou est vrai au sens alors le plus immédiat du terme, mais parce que la manière dont c'est dit est vrai et juste. Et c'est cette justesse que j'essaie de trouver dans les textes, et c'est ce qui m'agite quand je lis un texte. Ça, c'est juste ou c'est pas juste, ça dit la vérité ou ça ne la dit pas. Bon, je veux dire par là, c'est une vérité formelle, mais qui renvoie évidemment une autre forme de vérité plus profonde, la vérité de la personne qui, écrivant un texte, ne sort pas de ce sillon qui est celui qui va le plus profondément dans son histoire, dans sa sensibilité, dans sa... Voilà. Et ça, j'ai l'impression de le sentir quand je lis un texte qui me plaît. Autre chose, c'est... je suis comme vous, comme tout le monde, fait d'une histoire très... très complexe, qui a à voir avec l'enfance, avec les rencontres, avec certaines formes d'hérédité intellectuelle, etc. Et quand un texte fait bouger tout ça, a des répercussions sur cette espèce d'ensemble, sur ce magma que j'ai du mal à analyser ou à décrire, mais qu'on a tous en nous, plus ou moins, quand quelque chose se passe à cause du texte, et ben là, je commence à m'y intéresser beaucoup, voilà. Donc il y a deux aspects, il y a une espèce de vérité formelle, de justesse, et puis il y a aussi un effet produit par cette vérité, cette justesse, qui a des implications plus fortes que d'autres textes. Voilà.
Donc il n'y a pas que le style, il n'y a pas que la forme.
Il n'y a pas que la forme, mais c'est d'abord la forme, je dirais, c'est essentiel. Je cite souvent cette phrase que Antaille avait dit à Simon Antaille, avait dit à un ami, il avait dit il n'y a pas de forme sans contenu. Enfin voilà, c'est tout. C'est pas une question la forme et le fond, c'est pas. Mais à partir du moment où il y a une forme, je sais qu'il y a un contenu derrière.
C'est pour ça que vous aimez Beckett ? C'est parce que c'est une...
Oui, j'aime,
il ne se raconte pas d'histoire, parce que vous nous avez dit hier soir que vous aviez des écrivains, des auteurs qui racontaient des histoires, mais qui ne se racontaient
pas
d'histoire.
Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Je pense que c'est... qu'ils savent ce qu'ils font, qui sont conscients de ce qu'ils font, qui ne sont pas dans un abandon d'eux-mêmes par rapport à la... à leur vérité, à la forme de leur art.
Est-ce qu'il y a un plaisir particulier, Paul Tchaïkovski-Laurence, à découvrir les premières lignes d'un manuscrit ?
Ah oui, mais c'est vraiment Je citais l'autre soir Jean Cayrol. La découverte, c'est extraordinaire. Moi, pratiquement tous les auteurs que j'ai publiés sont arrivés. Enfin, beaucoup d'auteurs, j'exagère, mais beaucoup d'auteurs que j'ai publiés sont arrivés par la poste. Hein. Martin Winkler, Marie Dariussec. Il n'y a plus d'autres. Non, enfin, il y en a des quantités. À un moment, j'ai ouvert l'enveloppe, quoi. Et puis, je suis tombé sur ces textes et je me suis dit, mais voilà, ça y est. Lindon raconte ça, d'ailleurs, aussi avec Beckett. Il raconte qu'il a reçu ça à son bureau et qu'il était dans un état d'excitation tel qu'il a emporté le manuscrit dans le métro et qu'il lisait le manuscrit dans le métro. C'est ce qui arrive de temps en temps. Moi, ça m'arrive. Je reçois des manuscrits qui sont intéressants, que je mets de côté pour les lire de manière plus approfondie, pour éventuellement contacter leur auteur, voir un petit peu, discuter avec eux. Puis il y a des textes qui surgissent comme ça immédiatement, qui sont immédiatement exceptionnels, quoi, qui ne relèvent pas de la routine, aussi intéressante qu'elle soit. Alors ça m'arrive de quelques fois par an, on va dire.
Sur combien de manuscrits lus, vous en lisez combien par...
Écoutez, actuellement, il m'en arrive un peu plus de 3000, oui, par an.
Et alors, je voulais prendre un exemple avec... Je propose deux débuts de romans.
Oui.
Soit celui de Patrick Lapeyre, La vie est brève et le désir sans fin, ou alors le début de Princesse 2 d'Emmanuel Bayamaktam. Est-ce que vous voulez bien en lire quelques lignes et me dire là-dedans, dans ces quelques lignes, ce qui vous a tout de suite mis en joie?
Vous prenez des livres qui ne sont pas les premiers de leur auteur. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Je connais déjà l'auteur, je connais déjà son œuvre, et là, le plaisir est grand, hein, d'avoir un nouveau livre d'un auteur, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que quand il arrive par la poste. Et que je le découvre.
Donc c'est le premier roman.
C'est le premier roman de Patrick Lapeyre. Et c'est le premier paragraphe. Et je vous dirai pourquoi ça m'a immédiatement sauté aux yeux. Il était assis au fond du bureau, juste en face de la fenêtre, le corps légèrement tassé sur une chaise, comme s'il riait tout seul. Il avait posé à côté de lui les gants et le blouson en cuir qu'il devait porter pendant le film, car c'était longtemps après le commencement du tournage, au mois de novembre, et il essayait visiblement d'écrire une lettre. De temps à autre, il se redressait pour écouter des voix qu'il appelait du couloir, mais ne répondait jamais. Ses yeux maquillés gardaient quelque chose de rigide. Il n'arrêtait pas de fixer devant lui cette fenêtre, dont on avait teinté les carreaux, de sorte que tout semblait brun et rose. Les nuages, la route nationale, les camions. Comme sur un photogramme du temps. Voilà, donc j'ai été immédiatement frappé, ne serait-ce que par la disposition des phrases, la manière dont les divers éléments du décor et de la personnalité du héros sont posés comme ça. Et puis il y a cette chute comme sur un photogramme du temps, et ça c'est tout Lapeyre, c'est-à-dire qu'il arrive... À faire entrer du métaphysique dans les phrases les plus ordinaires. Et cette phrase, alors déjà le début m'avait paru très bien, mais comme sur un photogramme du temps, voilà, là j'étais tout de suite, je me suis dit ça y est, il y a quelque chose, parce qu'il y a une manière de contracter et de rapprocher des éléments qui sont un photogramme du temps, ça n'existe pas, voilà, c'est tout. Mais tout d'un coup, ça devient réel et vraisemblable. Et ça ouvre sur une autre dimension.
Vous avez eu hâte, après avoir lu ces lignes, de rencontrer Patrick Lapeyre.
Vous avez
envie vite de savoir qui est derrière.
Oui, tout à fait. Alors, là, pour dire la vérité, en fait, Patrick Lapeyre, je l'avais connu pour un autre manuscrit qu'il m'avait envoyé chez Hachette. Et je l'avais rencontré à l'époque parce que je trouvais ça intéressant. Mais là, quand j'ai reçu ce manuscrit, je me souvenais plus de lui, à vrai dire. Je me suis rappelé de lui en lisant le texte c'est quelqu'un qui écrit très lentement, et il avait dû m'apporter son livre en 80, je pense, chez Hachette. ou 79, ou quelque chose comme ça, parce que oui, en effet, je visualise bien le bureau où j'étais, donc c'était, on va dire, 79-80, et ce livre-là, il me l'a donné en 84. Donc, voilà, j'avais un petit peu perdu le contact avec lui. Et donc, c'est vraiment comme si c'était un manuscrit qui m'est arrivé par la poste, de toute façon, et j'ai été immédiatement aimé. Alors donc je l'ai vu, on s'est revu et voilà, on s'est mis d'accord pour la publication et voilà, c'était l'époque où je faisais des couvertures illustrées, comme vous voyez.
C'est important, la personnalité d'un écrivain, elle compte pour vous ?
Je ne veux jamais voir les écrivains, évidemment les nouveaux, avant d'avoir lu leur livre. J'ai souvent des demandes comme ça, quand on m'envoie un manuscrit, j'aimerais vous rencontrer pour vous expliquer ce que j'ai fait. Je refuse toujours systématiquement, gentiment bien sûr, mais je ne veux pas voir les écrivains avant de... Alors, ce n'est plus la même chose quand je les publie. Je les connais, on se connaît, c'est un autre type de rapport qui s'installe. Mais je préfère être en face du texte. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que, en voyant les auteurs, j'ai cette espèce de stupéfaction à constater à quel point ils ressemblent à leur livre.
Et même, ça peut être même physiquement, dans la façon de s'habiller.
Physiquement, ils ressemblent à leurs livres. Il y a quelque chose... alors évidemment, je suis influencé parce que j'ai lu leurs livres avant de les voir. Donc j'ai tendance à les habiller des mots qu'ils ont écrits. Mais voilà, il est très très rare qu'un écrivain ne ressemble pas à ce qu'il a écrit.
Alors vous, Paul Tchaïkovski, Laurence, vous imaginez l'écrivain, mais vous savez aussi que l'écrivain, il va vous imaginer vous et que vous êtes quelqu'un de très important pour lui parce que vous changez la vie écrivains qui commencent à être édités.
Oui, d'ailleurs c'est un... Bon, alors là c'est un... Est-ce que c'est pervers ? Je ne sais pas, mais je ne dis jamais non plus au téléphone ou par lettre que je vais publier à l'écrivain. J'attends de le voir pour le lui dire. Et c'est toujours un grand bonheur que de voir sa joie ou son émotion. C'est un petit moment de, je sais pas, de pouvoir peut-être, ouais. Je sais pas. Mais c'est un pouvoir positif. C'est pas.
Il y a deux écrivains des éditions de Minuit qui ont raconté l'importance qu'avait eu Jérôme Lindon pour eux, Jean-Philippe Toussaint
et puis Jean Echenoz.
Jean-Philippe Toussaint écrit par la maman de le sentiment d'urgence, de curiosité, de vivacité qui font de Jérôme Lindon le grand éditeur qu'il est.
Et donc
vous sentez parfois le je sais pas si c'est de l'amour, mais presque. L'importance que vous avez.
Bien sûr, oui, bien sûr. C'est voilà, je sais très bien que. Donc je joue de facto comme ça un rôle important dans la vie des écrivains que je publie parce que puis eux aussi jouent un rôle important dans la mienne parce que c'est pas à sens unique, et je parle pas simplement de la marche économique de la maison ou même de sa marche intellectuelle. Moi je suis dans un rapport comme ça il y a une forme d'intensité dans les rapports. Ils me donnent ce qu'ils ont de plus précieux. Donc je suis investi d'une tâche qui est énorme, quoi. Et c'est impressionnant. Donc je sens leur confiance, puis je sens leur doute aussi parfois, et je sens leur insatisfaction. Ça peut arriver, bien entendu, et ça arrive. C'est à moi de faire le mieux possible. Et c'est toujours quelque chose de très... très angoissant, très...
Oui. Il faut trouver les bons mots pour dire...
Oui. Oui, à la différence de ce que je viens de faire.
Pour dire quand ça ne va pas. Ça vous arrive de lire un livre qui est en train d'être écrit et l'écrivain n'arrive pas, il est dans une impasse et il vous montre un manuscrit en train de se faire pour
tous les cas de figure sont possibles et celui-là entre autres c'est déjà présenté où un écrivain me demande conseil, je suis extrêmement attentif à ne pas empiéter sur le territoire de l'écrivain. Et en plus, les écrivains, bon, il y a des écrivains à qui on peut passer des commandes, dire ce que je ne fais jamais. Il y a des écrivains à qui on peut dire non, tu te trompes, il ne faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça, ou vous vous trompez. Je ne suis pas exactement comme ça non plus. C'est-à-dire que moi, je trouve que les écrivains avec lesquels je travaille sont des gens qui sont suffisamment maîtres de leur art pour que les tâtonnements, les hésitations soient fructueux. Je tiens absolument pas à orienter selon mes désirs le travail des écrivains. Je peux leur dire que telle œuvre mériterait d'être un peu plus travaillée ou approfondie, je peux dire ça. Mais je ne peux pas dire il faut changer l'histoire ou je ne sais quoi. Enfin bon, c'est pas possible. Je sais que j'ai des confrères qui le font, mais c'est un autre type de métier, un autre type de relation, et ce sont d'autres auteurs.
Et quand il faut dire qu'une œuvre mériterait d'être un peu plus travaillée, vous le dites comme ça, avec ces mots-là, approfondi, vous dites.
Oui, mais enfin, bon, j'essaie de le dire de manière à ne pas blesser d'abord, à ne pas froisser, et à ne pas créer de malentendus, oui. C'est très variable. On ne parle jamais de la même manière à deux écrivains différents. C'est pas une question de stratégie. Là aussi, c'est une question d'imprégnation. C'est simplement un rapport humain un peu particulier. Mais j'ai pas de recette. Enfin, c'est chaque fois différent et nouveau.
Les états d'âme des écrivains, Paul Tchaïkovski-Laurence, vous les écoutez?
Oui. Les états d'âme des écrivains, ils sont pas différents. Tout le monde a des états d'âme. Hein. C'est pas. Alors, il y a des problèmes spécifiques aux relations entre écrivains et éditeurs qui font que, bon, voilà, on a des. Il y a des problèmes particuliers qui peuvent se poser, donc, et qui appellent des solutions particulières. Mais. Dans l'édition, il y a des personnes qui estiment que les écrivains sont des écorchés vifs, des grands enfants, etc. etc. J'ai entendu tout et davantage encore au cours de ma vie professionnelle. Et pour moi, les écrivains sont des femmes et des hommes comme les autres. Simplement, ce sont des écrivains. Et les rapports professionnels que je peux avoir avec eux me donne certaines responsabilités, mais pour le reste c'est
il n'y a pas des qualités propres aux écrivains,
des qualités humaines,
oui
non, les qualités qu'ils ont, ce sont des qualités d'écrivains. Si, bien sûr, il y a des qualités, par exemple les écrivains, comme tous les artistes d'ailleurs, sont des gens qui regardent et qui observent et qui comprennent et qui et ça c'est quelque chose que je leur envie beaucoup, effectivement. C'est quelque chose de propre aux artistes en général, je crois. C'est une manière de regarder les autres, le monde, plus profonde, plus lucide, plus pénétrante, et de le restituer, de le comprendre, de l'expliquer, de l'analyser, peut-être mieux et davantage que vous et moi. Mais oui, mais ce sont des qualités d'artiste.
Et vous ne les avez pas, vous pensez? Ils ont une attention, en fait.
Oui, c'est ça. Moi, je pense.
Et vous sentez que vous ne l'avez pas au même degré.
Je l'ai grâce à eux, par eux, par leur intermédiaire.
Parce que quand lisant un texte, voilà. Vous êtes très attentif.
Oui, bien sûr. Mais je suis attentif au texte et à ce qu'il me dit. Et je pense que tout seul, je ne saurais pas le faire.
Il vous arrive, Paul Tchaïkovski-Laurence, d'être agacé par un texte?
Ça peut arriver. Tout dépend des proportions, des limites. Mais à travers mon expérience comme ça, qui commence à exister, parce que ça fait quand même 44 ans que je travaille dans l'édition, j'ai appris qu'il fallait aussi admettre d'être déconcerté par un texte. Qu'il fallait accepter d'être, bon, comme je le disais l'autre fois, bousculé par un texte. Ce qui peut apparaître comme un défaut dans un livre, il faut faire attention parce que ça peut se révéler être une des vraies qualités du livre plus tard.
Vous avez des souvenirs de personnages, de livres qui vous ont touché plus que d'autres?
C'est pas forcément de personnages, c'est parfois des phrases qui me traînent comme ça dans la tête. Je me souviens d'un des premiers manuscrits que j'avais lu chez Christian Bourgois, où il y avait cette espèce de leitmotiv à travers tout le livre, un moutonnement de frondaison. Mais j'ai encore cette phrase dans la tête 44 ans après.
Et ça vous plaisait? Ou c'était singulier?
C'était singulier, ça rythmait le texte. Je me souviens aussi d'un autre texte lu chez Bourgois, qui se basait sur la répétition. Il y avait notamment Cher Gouradzin qui revenait comme ça. C'était un roman russe, en quelque sorte. Et voilà. Enfin...
Christine Angot a écrit un texte pour un colloque qui a été organisé sur l'amour. Mmh. Un colloque organisé par Jean Birnbaum, qui s'occupe du manque des livres. Et elle a écrit, le thème du colloque, c'est l'amour. Et elle a écrit un texte sur son amour de l'écriture. Mmh. Et puis, elle y parle de ses amoureux. Elle parle de sa vie. Mmh. Et elle dit qu'elle a beau avoir eu des amoureux qui étaient de grands lecteurs, lorsqu'elle leur montrait un livre qu'elle était en train d'écrire, un livre, elle avait un livre actif, ça leur faisait peur. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle veut dire? Ça leur faisait peur parce que le livre, il était en train de
se faire. Je peux comprendre. C'est... Bon, si vous voulez, moi, je n'ai pas cette peur parce que j'ai une certaine pratique maintenant. Et puis, je ne suis pas l'amoureux de mes auteurs. Donc, ça change un peu le rapport. Mais quand on a un rapport comme ça, personnel, intime, ça peut être compliqué. Oui, je le comprends très bien. Déjà, quand on me donne un texte en cours, en train de se faire, etc., je suis très circonspect, je fais très attention, comme je vous l'expliquais, de ne pas... Mais je conçois la panique que ça peut être pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude et qui en plus, a, avec la personne, des enjeux amoureux ou autres.
Si la qualité d'un écrivain, c'est d'être très attentif,
oui,
et de bien voir,
oui,
la qualité d'un éditeur, les qualités d'un...
Oh, je crois que c'est là d'accepter de se laisser déconcerter, c'est-à-dire de bon, c'est la curiosité, ça c'est sûr, c'est bon, continuer à être heureux d'ouvrir les manuscrits qui arrivent, ça c'est une chose, mais c'est aussi accepter d'être débordé, voilà. C'est d'être troublé, d'être mis à mal, d'être mis mal à l'aise et de contester.
Voilà. D'accepter de tout entendre.
Oui, exactement. C'est d'être malléable, quoi. C'est d'être. Enfin, malléable, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais. Oui, non, d'être ouvert, tout simplement, d'être ouvert.
C'est une constellation d'amis, POL.
C'est pas. Non, c'est pas. Comment dire. Bon, je peux avoir avec certains des auteurs que je publie des rapports plus amicaux qu'avec d'autres, au moins qui sont dans l'amitié, ça existe, bien sûr. La maison d'édition, c'est pas une bande d'amis, c'est pas une bande de copains, ce sont des gens qui travaillent ensemble et qui, ensemble ou séparément, mais enfin, bon, qui sont dans le même endroit, qui peuvent interférer les uns avec les autres, mais. Je pense que ça peut pas être ça. Ça peut pas être une bande d'amis. Parce que, du coup, c'est plus une maison d'édition, c'est une bande d'amis.
Vos écrivains vous parlent de ce qu'ont fait les autres dans l'année.
Oui. Il y a une espèce de règle tacite, c'est que personne ne dit du mal de personne.
Elle est tacite, vous ne l'avez jamais...
Il m'est arrivé à une ou deux reprises de la rappeler, mais moi je ne supporte pas qu'un écrivain que je publie me dise du mal d'un autre écrivain que je publie.
Vous aimez bien qu'il vous dise du bien d'un autre écrivain?
Je ne lui demande pas, évidemment, je ne demande pas à tout le monde d'aimer tout le monde, parce que là on serait encore dans un ashram ou je ne sais quoi, mais Je suis content quand un écrivain me dit qu'il a beaucoup aimé le livre d'un autre écrivain. Ça me fait très plaisir. Mais je ne demande pas à ce qu'on me le dise.
Récemment, vous avez fait une fête pour les 30 ans de votre maison d'édition. Oui. Et quelle était l'atmosphère? Parce que là, je pense que tout le monde est...
Oui, c'était... Oui,
ouais.
C'était... Bon, voilà, c'était quand même... Bon, je vais quand même lâcher le mot. C'était très amical, mais c'était... voilà, c'était une fête, donc on n'est pas trop guindé dans une fête en principe.
Et vous, vous sentiez comment en fêtant les 30 ans de...
Oh, j'étais très heureux, j'étais ravi, j'étais content. C'était un beau moment parce que quand même 30 ans, ça commence à faire. Et j'étais heureux d'être arrivé jusqu'à ce moment-là, tout le monde me disant, maintenant, il faut tenir encore une année, puis il y aura une autre année après, et une suivante, j'espère.
C'est comme ça, vous comptez année par année.
Oui, tellement exactement. Oui. Oui, exactement. J'ai jamais compté autrement parce que sinon c'est pas possible. Enfin, bon, d'abord, c'est pas une ça n'est pas une entreprise industrielle POL. C'est-à-dire qu'on ne prévoit pas le produit qu'on sortira dans 5 ans. Il n'y a pas des bureaux d'études qui sont en train de travailler à la conception d'un. Bon, voilà. Ce sont des écrivains qui à chaque fois donnent quelque chose de totalement nouveau, totalement inattendu. Enfin, c'est ce que j'attends, en tout cas, moi, l'inattendu. Et donc, on ne peut pas faire de plan. On ne peut même pas se dire, tiens, je vais publier un tel mois, parce qu'il m'a dit que... Parce que, aussi bien, il aura terminé plus tôt ou plus tard. Et donc, c'est très, très difficile de programmer. Je ne sais plus chez quel poète c'est, mais un jour augmenté d'un jour, là, c'est une année augmentée d'une année, quoi. Bon, puis au bout d'un moment, ça, si ça marche, ça fait quelques années, mais...
Merci, Paolo Tchaïkovski. Laurence, à demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre en 2014 entre Virginie Bloch-Léné et Paul Tchaïkovski-Laurence, fondateur des éditions POL. À voix nue, coordination Claire Poincillon, production Virginie Bloch-Léné, réalisation Anne-Pascale Desvignes et Annabelle Brouard, prise de son Bernard Quentin.